Mireille Kanyang.
Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. L'affluence des clients au marché dit chez Sion n'est pas grande. Acheteurs et vendeurs l'expliquent par les tensions en République démocratique du Congo. Une commission statuant sur les actions déjà déposées chez Ubaka Nation Group en vue de la construction de l'ancien marché central de Bujumbura doit être mise en place, suggère le parti APDR. Clôture ce 10 décembre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans cette édition. Vous suivrez la réaction d'un expert en cybersécurité. La mise en onde de cette édition est assurée par Alphonse Kougiman. Bienvenue encore une fois. Le parti APDR s'accorde avec la mesure du chef de l'État selon laquelle le gouvernement va investir dans la construction du marché central de Bujumbura après avoir constaté que le groupe Waka Nation n'avait pas de moyens financiers pour exécuter ce projet. Gabriel Banzawitonde, président de ce parti, trouve qu'il faut mettre en place une commission chargée de clarifier le sort des actions qui ont déjà été déposées chez Waka Nation en vue des travaux préliminaires à suivre.
D'abord, c'est une réalité puisque l'ex-marché de Bujumbura a été commencé la construction depuis 1992. Vous constatez bien que le marché a été construit il y a des années. Alors aujourd'hui, on passe au plus de 12 ans, puisque c'est depuis 2013 que le marché est là sans toutefois construit encore. Pour nous, on partait à PDE. D'abord, c'est une bonne nouvelle que son licence de la République a dit que maintenant le gouvernement va impliquer. Puisqu'auparavant, on avait donné une société au Waka Nation sans toutefois qu'il y ait l'implication du gouvernement. C'est un pas avancé. C'est pourquoi pour nous, disons que le gouvernement devait réunir tous les commerçants qui avaient des places, qui avaient des magasins là-bas pour contribuer, mais aussi demander à la population de nous tous. Comme nous avons continué pour la construction du stade noir, nous allons contribuer énormément. Dans ce cas, nous allons commencer au premier niveau. Alors, deuxième niveau, petit à petit, je pense que dans peu d'années, on aura terminé cette construction. Savez-vous, marché de côté vous, c'était un marché transitoire. On avait donné 6 mois tout simplement pour délocaliser. Et c'était une place de sport. C'est pourquoi on a baissé sur le terrain. Pour nous, nous disons que le gouvernement devrait impliquer les sommes et demander à tout un chacun de contribuer. Et dans ce cas, on peut donner une société indépendante pour gérer le marché, mais être à patrimoine de quoi? De l'État. Une autre chose que nous sollicitons, vous savez qu'il y a déjà qui avaient contribué comme des actions au niveau de la société ou Waka Nation. Alors dans ce cas, nous devrons avoir une commission pour étudier bien ces actions de ces gens, afin que demain après demain, il n'y a pas de chevauchement entre les contributeurs de cet argent.
Parlons toujours infrastructure. Une équipe de techniciens en matière d'aviation sera bientôt à Bugendana pour mener des études de délimitation de l'aéroport de Bugendana, longtemps attendu par la population de cette localité et de ses environs. Cet aéroport comprendra une piste de 4 km de longueur et 60 mètres de largeur. Propos respectivement du directeur général de l'aéroport international Mekleon Ndadaye et du directeur des aéroports et des services de navigation aérienne ce mercredi à Bugendana lors d'une séance de sensibilisation de la population sur ce projet. Et la population de cette commune se réjouit de ce projet. Gérard Nibikira.
Selon le directeur général de l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura, le lieutenant-colonel Gervais Harerimana, le projet de construction de l'aéroport international de Bugendana a déjà débuté du moment que ce mercredi à Bugendana, déjà la population de Bugendana, essentiellement des collines Witare, Chishkwa, Kibungo, Bukoro et Mugitega, et même des autres collines, a été sensibilisée sur ce projet. Il ajoute que très bientôt, une équipe de techniciens nationaux et étrangers se rendra à Bugendana pour effectuer des études de délimitation de cet aéroport. Après cette activité de délimitation bornage de l'aéroport international de Bugendana, suivra le recensement des terrains des particuliers et des terrains de l'État qui seront occupés par cet aéroport. Puis suivra également le calcul des indemnités à donner aux personnes qui seront expropriées, mais aussi des terres de l'État qui seront données aux personnes qui qui vont préférer l'échange des terrains aux indemnités et en fait les travaux de construction de l'aéroport international de Bougindana vont suivre. De son côté, le directeur des aéroports et des services de navigation aérienne Pacifique Musongera indique que cet aéroport international de Bougindana comprendra une piste de 4 km de longueur et de 60 mètres de largeur, mais que le nombre de pistes pourrait augmenter. La population de Bougindana, quant à elle, se réjouit de ce projet de construction de l'aéroport international de Bougindana, longtemps attendu. Depuis Bougindana, en province Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
18h07 dans le studio de la radio Isanganiro, parlons droits de l'homme. L'ignorance sur l'existence des lois punissant les violences faites aux femmes à travers les technologies modernes ainsi que l'ignorance des moyens de se protéger contre ces formes d'abus figure parmi les défis favorisant leur augmentation. Propos d'un expert en cybersécurité, le lieutenant-colonel de police Pierre Mourikié estime qu'il est nécessaire de dispenser des formations sur les moyens technologiques permettant de se protéger contre ces violences. Suivies.
Les défis au Burundi, c'est d'abord un manque d'éducation sur la cybercriminalité, un manque d'information par rapport à cette loi et un manque d'éducation par rapport à la gestion et à la manipulation et à l'usage du numérique. C'est vraiment le grand défi. Et il y a un autre défi de taille qui est vraiment à la base, ce sont les inégalités de genre. Et donc, si les aspects de genre ne sont pas bien respectés au Burundi, il y aura un grand défi à pouvoir gérer ces violences, parce qu'en réalité, ces violences, ce sont des symptômes. La cause, c'est beaucoup plus dans les inégalités de genre. Alors, les solutions sont à rechercher à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la prévention. Dans la prévention, il y a le signalement aux plateformes et aux autorités compétentes pour que les auteurs soient appréhendés. Et il y a l'éducation et la sensibilisation, la formation sur la sécurité en ligne et sur l'égalité des genres. Et il y a la sensibilisation sur le consentement et le respect numérique. Et il y a aussi des mesures techniques qui consiste en un paramétrage des comptes pour protéger les informations personnelles. Il y a aussi l'utilisation des mots de passe forts et de vérification à deux facteurs. Ça, ce sont des mesures techniques qu'on peut faire dans le cadre de la prévention. Il y a aussi, bien sûr, le support juridique et psychologique pour les victimes qui préfèrent plutôt déserter l'Internet. Il y a aussi, en conclusion, la mobilisation collective. La réponse à ces violences numériques faites aux femmes et aux filles doit être une action commune parce que l'origine, ces inégalités de genre, c'est vraiment ancré dans la société et c'est tous les membres de la société qui doivent se tenir comme un seul homme pour pouvoir agir dans la prévention et dans la répression contre ces violences.
Le lieutenant-colonel de police Pierre Mourikié au micro de Stella Ndayishimiye. Je vous l'avais annoncé en titre, le marché d'Ichessillon non achalant des séjours des vendeurs et clients explique cette situation par les combats en République démocratique du Congo. Il demande que ces tensions s'arrêtent afin qu'ils puissent vaquer quotidiennement aux activités de commerce intérieur et transfrontalier. Suivez ce micro-trottoir.
Concernant la situation qui se passe là en RDC, ici avec le business ici, ça ne fonctionne plus, ça ne va plus parce que ça nous perturbe en fait. Il n'y a plus d'entrée comme d'habitude, les Congolais n'entrent plus ici pour acheter. Donc ça devient un peu compliqué. Pour nous, on peut plaider pour que les frontières soient ouvertes, mais il faut qu'ils regardent aussi si c'est possible que les frontières soient ouvertes. On les supplie vraiment qu'ils ouvrent les frontières pour que les activités continuent. Parce que si ce n'est pas comme ça, c'est devenu un peu compliqué.
Ce dernier jour, la situation n'est pas bonne parce que il y a l'insécurité qui règne au Congo. Alors que le marché Sion est le plus souvent fréquenté par les Congolais. Comme nos deux pays sont interdépendants, quand les Congolais ne viennent pas, les Burundais qui vendent leurs marchandises ici au marché Sion de la Mande. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de circulation comme avant. Il n'y a même pas de marchandises. Alors que partout ici au parking, il y avait des marchandises achetées par les Congolais pour faire leur commerce. commerce. Pour le moment, alors, nous attendons que la situation soit bonne parce que nous aussi, nous sommes touchés par cette situation du Congo.
Nous avons des difficultés avec la guerre qui sont chez nous au Congo. Maintenant, avec nous avons des difficultés parce que nous vivons ici au marché des Sion avec le mouvement qui vient d'ouvrir, qui vient du Congo. Maintenant, pour le moment, aucun travail qui se trouve ici. C'est comme ça, vous voyez seulement le marché est toujours comme ça. Aucune activité qui se trouve ici parce qu'avec les guerres qui se trouvent au Congo. Maintenant, nous avons des difficultés avec les histoires. Les loyers sont déjà, il n'y a pas d'argent pour payer, les loyers sont chers et les frais scolaires pour les enfants aussi, ça ne marche pas. On va prier à Dieu qui nous aide, tous les guerres vont terminer par grâce de Dieu.
Poursuivons avec cette édition. Le programme PRODER, financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, n'est pas chargé de la mise en application des projets des jeunes bénéficiaires. Le responsable du développement des entreprises et des coopératives dans la région sud-est au sein du PRODER invite ceux qui pensent bénéficier d'un financement gratuit de mettre en application leur plan d'action car d'ITIS seront appuyés en fonction de leur manquement. Plus de détails avec Élisée Kwizera depuis Makamba en province de Burunga.
Au moment où certains des jeunes bénéficiaires du programme PRODER, financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, pensent bénéficier gratuitement un financement et qu'ils trouveront leurs projets exécutés par ce programme, comme l'indique le responsable du développement des entreprises et des coopératives au sein du programme PRODER dans la région sud-est, Leonidas Buyondi. Celui-ci annonce que le programme de développement de l'entrepreneuriat rural n'est pas chargé de la mise en exécution des projets. Par contre, il invite des bénéficiaires de ce programme de se mettre à l'œuvre. Il a dit cela au cours d'un atelier de ce mardi et ce mercredi qui a été organisé par l'Office burundais de l'emploi et de la main-d'œuvre OBM à l'endroit des jeunes entrepreneurs, appuyé par le programme de développement de l'entrepreneuriat rural OBR dans la commune Makamba de la province de Burunga. Au cours de ce même atelier, la directrice générale de l'OBM, Faustine Ndayishimiye, a annoncé que des entrepreneurs, notamment les jeunes sans emploi, bénéficiaires du programme PRODER, seront initiés à des métiers d'auto-emploi. Parmi les bénéficiaires de ce programme dans la commune Makamba figurent les personnes vivant avec handicap, celles des familles des Batois, des rapatriés, des filles et mères et d'autres, dont 95 entreprises et coopératives qui étaient déjà en action, 597 personnes qui seront choisies parmi 3594 en train de suivre des formations, ainsi que 100 jeunes entrepreneurs vulnérables ayant des capacités d'entreprendre depuis le mois de mars 2025 jusqu'à mars 2029. De Makamba, en province de Burunga, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro.
Et un homme originaire de la colline Moussema, en commune Matongo de la province Butanyerere, sous les verrous au cachot de la zone Nyabibouye. Depuis dimanche, la personne arrêtée est accusée d'assassiner à sa marâtre une sexagénaire suite à des litiges fonciers. La police indique que des enquêtes judiciaires sont en cours, nous rapporte Patrick Nsengiyumv.
Des informations en provenance de la colline Moussema en commune Matongo de la province Butanyerera disent que la victime était une veuve qui vivait dans la maison avec un petit enfant. Les mêmes informations indiquent que les voisins ont entendu cette veuve crier au secours et quand ils sont intervenus qu'elle avait été déjà tuée. Ces informations sont confirmées par Yves Guilé Sophie, chef colinaire Moussema. Celle-ci fait savoir qu'arrivée sur le lieu du drame, elle a alerté la police opérant à Nyabibouye. Une personne est l'officier du mari de la victime a été arrêtée la même nuit du dimanche passé pour des enquêtes judiciaires selon la police. Au niveau de l'administration colinaire Moussema, l'on indique que la personne arrêtée et qui est soupçonnée d'être l'auteur de cet assassinat avait des litiges fonciers avec la victime. Sophie Wivugire, chef colinaire Moussema, appelle la population qu'elle dirige à saisir l'administration et les instances judiciaires en cas de conflit de quelque nature soit-elle, au lieu de faire recours à la justice populaire. Depuis Moussema dans la commune de Matongo de la province Butanyerera, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro.
Merci à Patrick Nsengiyumva et vous voudrez bien nous excuser de cette erreur au début de cet élément sonore de Patrick Nsengiyumva. Tout de suite après, c'est la chronique Parle, rassure-moi.
Parle, Rassure-moi.
S'immiscer dans la vie privée d'une personne, que ce soit dans sa vie personnelle, familiale ou dans ses échanges rendus publics, constitue une violation de l'article 28 de la Constitution du Burundi. C'est ce qu'affirme Alain Désiré Boukéneza, journaliste et expert en droits humains. Ceci après que les habitants de la colline Rongero, en commune de Rutana de la province Burunga, aient déclaré être victimes d'intrusions dans leur vie privée pour divers motifs. Notamment celle de les décourager ou de leur faire croire que leurs efforts sont vains. Selon l'expert, les personnes qui se sentent ainsi harcelées peuvent réagir de différentes manières, ce qui peut parfois conduire à des altercations si la situation n'est pas maîtrisée à temps. La chronique parlait, rassure-moi, avec Ornella Mucho.
Parler en public ou dans tout autre lieu de rassemblement de ce qui concerne la vie privée d'une personne, que ce soit en rapport avec sa nature, son mode de vie ou ses conversations avec autrui, constitue une atteinte à sa vie privée, ce qui est contraire à l'article 28 de la Constitution du Burundi de 2018. C'est dans ce contexte que sur la colline Rongero, dans la commune de Rutana, province de Burunga, des habitants se plaignent de la fréquence de tels propos dans la communauté, affirmant qu'ils nuisent à la cohésion sociale.
Certaines personnes se permettent de dire qu'elles s'habillent bien, elles mangent bien, mais elles n'ont même pas encore sa propre maison. Pourquoi ne pas s'en occuper d'abord? Vous comprenez que cela constitue une intrusion dans ma vie privée.
Il y en a même qui vont jusqu'à dire « Cette personne, même si elle est appréciée par beaucoup, c'est uniquement grâce au bien de sa femme. C'est un bon à rien. » Tout cela sans fondement, uniquement pour me salir.
Certains comprennent que ces propos sont souvent motivés par la jalousie ou encore par la volonté de décourager quelqu'un dans ses projets.
Ils agissent ainsi uniquement pour ternir mon image au sein de la communauté.
C'est une manière de m'humilier publiquement et de me démotiver dans mes projets. Les conséquences peuvent naître d'un simple désir de vengeance. Certains se calment, d'autres influencent leur entourage à réagir.
Richard Njedjimana, chef de cette colline, reconnaît l'existence de tels propos qui vont parfois jusqu'à provoquer des échauffourées entre certains habitants.
Souvent, on y retrouve des tensions. Certains viennent même à se battre jusqu'à se blesser. Dans ces cas, on demande d'abord à la personne qui a blessé l'autre de payer les frais médicaux. Ensuite, on donne des conseils et si cela persiste, on transmet l'affaire à nos supérieurs.
Alain Désiré Boukéneza, expert en droit de l'homme, insiste sur l'importance de l'article 28 de la Constitution qui stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée, mais tout en respectant les mœurs et la culture du pays. Il explique que de tels propos peuvent engendrer un climat de tension entre différents groupes sociaux.
En portant atteinte à la vie d'une personne, les gens qui ressemblent à la personne ou qui se trouvent violés de cette manière, ils vont se considérer comme un groupe à part. Donc ça, c'est une manière de constituer des stéréotypes de telle manière, des préjugés. On aura déjà constitué un groupe qui se considère comme étant en danger. Et quand on est en danger, les réactions sont diverses. Et quand on fait recours à la violence, ça engendre des blessés, ça peut même engendrer des morts.
Il ajoute que porter atteinte à la vie privée d'autrui, en plus d'être interdit par la loi nationale, est également puni par le code pénal.
Nous avons la justice. Le ministère public doit être interpellé pour que les gens soient traduits en justice si de tels droits sont violés. Une autre manière de corriger cela, c'est que la personne qui peut se sentir lésée a le droit de saisir la justice.
Le droit au respect de la vie privée est également garanti par des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, notamment par le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ainsi se referme cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kougimane qui a assuré la mise en œuvre de très bonne suite de nos programmes. Au revoir.